Sylvain Attal, bonsoir.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Et on vous retrouve comme chaque semaine sur Radio Shalom afin de tenter de comprendre comment va le monde. Et cette semaine, ce sont les conditions de la libération de l'humanitaire française Sophie Pétronin qui fait l'actualité et dont vous allez nous parler. Et cette libération finalement confirme, Sylvain Attal, l'enlisement français au Mali.
Tout le monde en a parlé, il faut commencer par répondre à cette question, est-ce que le prix à payer était trop élevé? Vous savez que tous les gouvernements ont pour doctrine de ne pas négocier avec les terroristes, et à plus forte raison, ils jurent leur grand Dieu qu'ils ne payent jamais de rançon aux ravisseurs. Dans la réalité, tout le monde en est convaincu maintenant, c'est toujours l'inverse. Face à de telles situations, en fait, trois attitudes sont envisageables, pas plus. La première, ne rien faire, c'est-à-dire oublier les otages. Devenus sans aucune valeur marchande, ce sont des bouches inutiles dont les ravisseurs ne tardent pas à se débarrasser. C'est ce qui est arrivé à la malheureuse compagne de détention suisse de Sophie Pétronin qui a été abattue sur une dune. La deuxième, c'est tenter une opération militaire pour les libérer. Alors selon les circonstances, ça peut se tenter, ça a d'ailleurs été fait par la France au Sahel, mais ça représente toujours des risques pour les otages et aussi pour les soldats. Reste la dernière, qui est donc de négocier, et là évidemment il y a toujours un prix. Quand c'est de l'argent, ça peut être fait discrètement, on peut faire intervenir des intermédiaires, puis démentir le versement d'une rançon par le gouvernement, c'est on va dire un mensonge par omission. Ici, on évoque plusieurs millions d'euros, certains ont dit 10 millions pour l'otage française, un couple d'Italiens, le chef de l'opposition malienne Soumaïla Cissé. Pour les libérations de prisonniers, c'est beaucoup plus voyant évidemment, et ici on parle de 180 à 200 djihadistes, dont une vingtaine de gros poissons, que les soldats français de Barkhane retrouveront certainement un jour ou l'autre en face de leurs fusils. Il n'y a jamais de prix trop élevé pour sauver des vies humaines. Le problème, c'est la cohérence. Les soldats français envoyés en mission au Mali qui ont payé le prix du sang et ceux qui les y envoient peuvent à juste titre se demander si on ne leur confie pas une mission digne de celle de Sisyphe, vous savez, condamné à hisser éternellement le même rocher en haut d'une montagne.
Alors, certains, Sylvain, ont affirmé que Sophie Pétronin ne méritait pas un tel sacrifice car elle s'est convertie à l'islam et elle a qualifié ses ravisseurs, pas de ravisseurs, mais d'opposants.
Oui, parler de syndrome de Stockholm à son sujet, à mon avis, est un peu déplacé. D'une part, elle dit avoir embrassé l'islam avant son enlèvement, c'est bien son droit. En se manifestant comme musulmane, on voit bien aussi qu'elle a rendu plus difficile la tâche de ses ravisseurs en gagnant leur sympathie. Et si ça a amélioré ses conditions de détention, qui peut lui en vouloir? Maintenant, sur le deuxième point, on ne peut qu'être en désaccord avec elle, tout en lui donnant en partie raison. Je vais m'expliquer. Oui, ses ravisseurs sont des djihadistes dans le sens où ils sont entrés en guerre contre le pouvoir central malien avec comme projet l'établissement de la charia. On a vu ce que ça a donné d'ailleurs lorsqu'ils ont occupé le nord du pays avant d'en être chassés par la France en 2013. Ce sont aussi des terroristes qui sont, il faut le rappeler, responsables de nombreux attentats contre des civils innocents au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Mais s'ils gagnent autant de terrain, au point qu'on voit fleurir maintenant des groupes djihadistes un peu partout en Afrique centrale et même en Afrique australe, c'est qu'ils se nourrissent de la contestation de plus en plus grande envers des régimes prédateurs, corrompus, qui laissent leurs administrés dans le dénuement, l'incurie et même la misère, tandis que grossissent leurs comptes en banque en Suisse ou dans les pays du Golfe. De ce point de vue-là, Sophie Pétronin n'a pas tort, ce sont aussi des opposants.
Mais la France, Sylvain, est au Mali, certes pour éviter une reconquête djihadiste, mais aussi pour assurer sa propre sécurité, non ?
Ce sont les éléments de langage officiel, il faut les examiner. Le premier objectif de Serval, puis de Barkhane, était de chasser les islamistes qui s'étaient emparés d'une partie importante du pays et de les empêcher de revenir, en total accord avec les dirigeants maliens au début. Sauf que petit à petit, ces derniers se sont rendus compte que les Français ne les débarrasseraient jamais complètement des groupes armés salafistes, qu'il faudrait quand même un jour ou l'autre dialoguer avec eux, avec les moins extrémistes, comme le très populaire imam Diko, qui appelle quand même de ses voeux une république islamiste. J'ai peine à dire une république islamiste soft, mais enfin bon, une république islamiste quand même. Pour ne l'avoir pas fait assez vite, cette discussion, le président Ibeka, le président malien, a été renversé et la junte qui a pris le pouvoir semble aller dans cette direction du dialogue. L'ennui, c'est que le fossé s'est creusé par la même occasion, entre les dirigeants sahéliens, donc de tous les pays concernés, les populations et la France. Emmanuel Macron a tenté de le combler, ce fossé, en rassemblant les dirigeants à Biarritz l'année dernière, mais il n'y a pas eu vraiment de succès. Dans cette dernière négociation, on voit bien d'ailleurs que Paris n'était pas en mesure de fixer ses conditions. Les termes de l'échange ont été fixés par les Maliens, et la France a seulement réussi à insister pour que la Française fasse partie du deal.
Alors, dans ces conditions, la question se pose vraiment. La France doit-elle rester impliquée militairement dans la région si elle est de moins en moins la bienvenue?
Et on y vient évidemment, ça renvoie à la deuxième partie de la question. Est-ce que nous sommes seulement au Sahel pour les Sahéliens ou aussi pour assurer la sécurité de citoyens français? Tout le monde a en tête l'État islamique en Syrie. En créant une base logistique là-bas, il a pu organiser les attentats des frères Kouachi contre Charlie Hebdo et ceux de novembre 2015 à Paris. Ça avait donc du sens de partir en guerre contre là-bas pour les priver de cette base arrière d'où était lancée une guerre contre la France. Force est de constater qu'au Sahel, les djihadistes qui ont fait, eux, allégeance à la franchise d'Al-Qaïda n'ont ni les moyens, ni probablement le souhait d'exporter leur combat en Europe. De plus, nous sommes quand même un peu responsables de leur émergence. La chute de Kadhafi était certainement une bonne chose en soi, mais la France a été incapable de gérer le chaos qui s'en est suivi. Et la suppression de fait de la frontière sud de la Libye a permis à des centaines de djihadistes de venir s'installer au Mali et de là de se propager vers le Niger, le Burkina, en profitant de l'absence de toute autorité étatique. Contrairement à l'État islamique en Syrie et en Irak, ils n'ont pas la volonté de constituer un État structuré, mais plutôt de multiplier des poches de territoire qu'ils contrôlent pour y poursuivre en toute impunité leur trafic d'armes, de drogue. Bien sûr, partout où ils sont au contrôle, c'est la charia qui s'applique. Les Français ne sont donc pas directement menacés, sauf évidemment les humanitaires qui sont en première ligne. Leur travail est utile aux populations locales. Est-ce qu'il faut interrompre ce travail? Certaines grandes organisations comme MSF l'ont fait, et il ne reste que des petites structures comme celle de Sophie Pétronin, encore plus vulnérables. Les faire protéger par l'armée n'est pas non plus une solution, car ça les exposerait davantage. Et c'est donc un terrible dilemme, car le business des otages européens est certainement appelé à rester très florissant.
Alors tout cela plaide plutôt pour un départ des soldats français. On laisse les Maliens se débrouiller tout seuls?
En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. D'une part, la présence française peut contribuer à maintenir un certain équilibre entre les salafistes et les autres, qui restent quand même nos alliés, une sorte de containment, si vous voulez. On limite la progression du mal. Par ailleurs, même si ces groupes ne sont pas aujourd'hui, à proprement parler, des menaces pour la France, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas le devenir. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Il y a aussi le risque de voir une sorte de phénomène de domino se mettre en place, qui ferait tomber les pays africains les uns après les autres dans des mains hostiles à la France, ce qui nous priverait par exemple des matières premières comme l'uranium du Niger, et ce serait contraire à nos intérêts. Toute chose égale par ailleurs, ce qui se passe avec l'islamisme en Afrique ressemble aux années 60 avec le marxisme-léninisme, des mouvements dits de libération qui s'inféodaient à Moscou pour renverser des régimes rapaces et illégitimes. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Aujourd'hui, c'est simplement la bannière d'Allah qui a remplacé la faucille et le marteau. Face à ce défi, la France est, c'est vrai, menacée de s'enliser au Sahel, mais elle n'a pas d'autre choix que d'y rester présente tout en sachant qu'il n'y a pas de victoire totale possible contre les djihadistes. C'est un peu, si vous voulez, comme lorsqu'on doit désherber un champ ou tondre une pelouse. Il faut y retourner régulièrement tout en sachant qu'on n'en viendra jamais complètement à bout.
Sylvain Attal pour tenter de comprendre comment va le monde sur Radio Shalom chaque semaine. Merci Sylvain, bonsoir.
Merci à tous, au revoir.